Bonsoir, ils appellent cela un anéantissement biologique. Des chercheurs américains et mexicains viennent de publier une étude sur le déclin des vertébrés sur Terre. Ils n'y vont pas par quatre chemins. Oui, explique-t-il, la sixième extension de masse, extinction de masse que subit la faune, est en train de s'accélérer. La dernière extinction, on le rappelle, remonte à 66 millions d'années. C'était avec les dinosaures. Ce n'est pas la première fois que des scientifiques tirent la sonnette d'alarme, mais fait nouveau, cette étude a cherché à quantifier le déclin des populations animales et non des espèces. Or, la disparition d'une population, explique scientifique, c'est le prélude à la disparition d'une espèce. Et s'il y a un chiffre à retenir ce soir, c'est sans doute le plus emblématique. 43% des lions ont disparu depuis 1993. Sixième extinction de masse, est-il déjà trop tard? Quelle solution pour éviter le pire? L'espèce humaine est-elle également menacée? Vos appels au 01 45 24 7000, c'est sur France Inter, c'est jusqu'à 20h.
Stéphane Leneuf, le téléphone sonne.
Et au standard, on retrouve Noël qui nous appelle de Châtenay. Bonsoir Noël, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Oui, j'aimerais intervenir et poser une question. Oh. Ne croyez-vous pas que la problématique de cette extinction d'espèces animales, hein, je dis bien, que ce soit sur la Terre ou dans les océans, n'a pas pour, on va dire, cause principale, si ce n'est la cause unique, notre démographie galopante qui se fait au détriment, de par notre consommation, de par notre nécessité de consommer, ne se fait-il pas au détriment de toutes ces espèces, puisqu'on va gagner sur les espaces sauvages, et on va gagner sur les espèces, puisqu'on va aussi être en concurrence dans ce qu'on appelle la nourriture de ces espèces. On le voit pour la mer, on le voit pour la terre, que ce soit pour une consommation de viande qu'il faudrait maintenant réduire, si ce n'est, allez, on va dire supprimer si c'est possible, on voit que cette démographie galopante a déjà été dénoncée de par le passé, si je ne dis pas de bêtises, dans les années 90, qu'il s'agisse du Club de Rome, ou de grands économistes qui écrivaient dans les courriers internationaux, Samir Amin notamment, et, on va dire plus récemment, parce qu'il est mort il n'y a pas trop longtemps, Claude Lévi-Strauss, ethnologue, qui rappelait que le principal péril lorsqu'il a été interrogé, pour lui, était la démographie. Parce qu'en un siècle, nous sommes passés de 1 milliard à 7 milliards.
Merci Noël.
Voilà, excusez-moi.
Merci Noël, on a donc compris votre question autour de la démographie galopante. Pour répondre à vos questions ce soir, Gilles Boeuf, biologiste, professeur à l'université Pierre et Marie Curie, ancien directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Gilles Boeuf, vous êtes en direct de nos locaux de France Bleu Gironde à Bordeaux. Bonsoir.
Bonsoir.
À mes côtés, ici Hubert Reeves, astrophysicien militant écologiste. Bonsoir Hubert Reeves.
Bonsoir et bonsoir Gilles Boeuf.
Merci.
Bonsoir Hubert.
Et Sophie Bécherel. Bonsoir Sophie, journaliste bonsoir. Scientifique à la rédaction de France Inter. Hubert Reeves, la démographie galopante, c'est une des raisons de cette accélération de la sixième extinction?
C'est évidemment une des causes, mais je ne crois pas que ce soit la principale cause. La principale cause, elle est très simple, c'est le profit immédiat. C'est la volonté, par exemple, de couper les forêts de Malaisie pour faire de l'huile de palme, de pêcher, de vider les océans de leurs poissons. C'est ça la cause principale. La démographie en est une aussi, mais je crois qu'elle est plus difficile à gérer, disons, que les causes qui seraient d'ordre décisionnel, prises par des gens qui cherchent le profit, c'est-à-dire l'intelligence humaine qui n'est pas assez intelligente pour se rendre compte qu'elle est en train de couper la branche sur laquelle elle était installée. C'est comme ça que je résume la situation en quelques mots.
Gilles Boeuf, quel commentaire vous faites sur cette étude donc, qui est parue il y a quelques jours et qui accélère, en fait, qui démontre l'accélération de cette sixième extinction?
Mais donc, nous l'attendions depuis quelque temps. On connaît très bien les protagonistes, hein, les chercheurs mexicains. J'étais d'ailleurs à l'Instituto de Ecología à Mexico avec eux au mois d'avril dernier. Paul Ehrlich, on le connaît bien. C'est un chercheur qui avait dénoncé très très tôt, années 70, il avait déjà dénoncé ce qu'il appelait la bombe P, la démographie galopante. Je rappelle qu'après les explosions d'Hiroshima et Nagasaki en 1945, nous avons entre cette date et aujourd'hui multiplié entre 3 et 4 la population humaine. Donc notre auditrice tout à l'heure, elle avait raison. Mais je suis tout à fait également Hubert, c'est pas la seule cause. On peut voir effectivement des villes où la vie organisé peut être pas si horrible que ce qu'on peut imaginer par rapport à des zones de campagne. Ce qui est important, c'est bien réfléchir aux raisons actuelles de cet effondrement des systèmes biologiques et écologiques. D'abord, bien sûr, la destruction des écosystèmes. Il faut voir qu'en France, par exemple, en ce moment, on perd l'équivalent de la surface d'un département tous les 7 ans. Et on perd, bien sûr, de très bonnes terres agricoles comme ça pour la ville. On artificialise les sols. La seconde raison, c'est la pollution. pour moi, c'est le grand mal des 19e, 20e et 21e siècles. On pollue partout, même des zones où l'humain n'est pas. Hein. Regardez ces oiseaux en Arctique qui n'ont jamais vu d'humain et qui, dans leur chair, contiennent des pesticides effroyables que l'on utilisait sur nos champs il y a 50 ans ou 70 ans. L'océan, avec cet enfer de plastique aujourd'hui. La troisième raison, c'est la surexploitation qu'évoquait tout à l'heure Hubert, avec bien sûr la surpêche. Hein. Pêcher, c'est très bien. Surpêcher, c'est totalement stupide. Et puis, c'est la dissémination de tout partout. Aujourd'hui, on transporte tout, absolument partout. Le lapin, je rappelle que quand le lapin est domestiqué, il y a 2500 années, il ne vit qu'en France et en Espagne et au Portugal. Aujourd'hui, il est partout. C'est un exemple un petit peu emblématique. Et enfin, ce climat qui change trop vite, qui vient se surimposer aux raisons que j'évoquais auparavant. Tout ça, plus la démographie, ça crée effectivement cet état actuel sans conscience, hein, comme le dit Hubert, c'est cette recherche du profit immédiat. Et surtout, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la vision très court-termiste du monde politique.
Merci Gilles Bapp. Juste une question aussi concernant l'urbanisation. Comment effectivement on peut lutter aujourd'hui contre cette sururbanisation? Vous nous expliquez qu'on perd l'équivalent d'un département en France justement parce qu'on construit, on construit. Mais comment est-ce qu'au niveau des collectivités locales, on peut lutter contre ce phénomène?
Alors, ce qu'il faut, je ne suis pas contre les villes, hein, au contraire, mais il faut qu'on s'y rende en hauteur. Hein. Les villes doivent plus s'étendre en latitude, si vous voulez, en largeur, en mangeant de la terre agricole. Je pense aussi que certaines villes ont résolu le problème en mettant des ceintures vertes autour de la ville, qui sont là pour alimenter par le monde agricole, justement, connexe à ces villes. Parce que je rappelle que pour une ville comme Paris, on a quelques jours de réserve. Hein. Le monde agricole est fondamental dans les questions qu'on évoque ici. C'est eux qui amènent ces réserves pour les citadins. Donc, grandir les villes par la hauteur, en altitude. Et on se rend compte d'ailleurs que la biodiversité revient dans les villes. Il y a cette altitude que j'évoquais, il y a moins de prédateurs, il fait beaucoup plus chaud en hiver que dans la campagne environnante. Tout ceci a créé aujourd'hui des conditions un peu particulières. Donc réfléchir au type de ville que l'on veut développer et surtout, surtout, les verdir. Ramener la biodiversité en ville. Je rappelle le grand événement de la canicule dans le nord de la France, toute la France en août 2003, vous vous souvenez, 15 000 morts. Et bien simplement, on se rend compte qu'à Paris, sur des cartes thermiques, entre des zones de béton pur, des villes où il n'y avait aucun arbre et des parcs, il y avait 6 à 8 degrés d'écart. Ramener des arbres en ville, ramener de la biodiversité en ville. Et puis aussi, bien sûr, on se rend compte que quand on fait ça, on n'a pas les mêmes maladies si on a accès au sein d'une grande ville à des parcs ou à des jardins durant ces 30 dernières années de vie. Et ça gomme les inégalités sociales. Donc je pense que le monde politique devrait s'emparer de ceci. C'est absolument fondamental. C'est canicules, on les supportera beaucoup mieux si au sein des villes, on ramène effectivement des plantes et des arbres.
Sophie Becherel, et nous retournerons au standard avec Laure.
Oui, dans cette sixième extinction, aucun de vous deux n'a évoqué la disparition de l'écosystème. Or, c'est bien de ça qu'il s'agit au fond, parce que là, vous évoquiez la verdure, les arbres, Gilles Boeuf, mais au fond, ce qui ne va pas, c'est qu'on détruit des écosystèmes.
Eh bien, je l'ai dit, j'ai commencé en disant qu'on détruisait les écosystèmes hein, un peu partout. Il y a les villes, mais il y a autre chose aussi. C'est vrai que plus on va détruire cette nature dont on a absolument viscéralement besoin, plus on va poser des problèmes. L'agriculture a commencé il y a 12 000 ans, mais c'est pas la seule du tout qui est en cause. Ce qu'il faut absolument aujourd'hui, c'est nous garder des zones dites sauvages, entre guillemets. Hein. C'est pour ça, c'est l'intérêt des parcs et des réserves hein, qu'on évoque souvent, mais pas uniquement. Je pense qu'il faut que, de façon globale, nous ayons un sentiment de responsabilisation, pas de culpabilité. Je ne suis pas du tout là pour culpabiliser les gens. Je suis là pour leur dire, on vivra beaucoup mieux si on retrouve l'harmonie avec cette nature dont nous sommes issus et qui nous nourrit aujourd'hui. Bien sûr, vous avez raison.
Hubert Rive.
Oui, je crois que l'idée de l'écosystème est fondamentale. Moi, j'aime bien prendre le cas des tortues, par exemple. Les tortues, ils existent depuis 200 millions d'années. Ils ont traversé des quantités de catastrophes météoritiques, géologiques, etc. Elles sont toujours là. Nous avons à peine 300 000 ans, selon Homo sapiens, et nous sommes déjà dans le collimateur. Eh bien, quand on demande aux tortues comment ils ont fait,
pour survivre 200 millions d'années.
Comment ils ont fait, de façon scientifique et avec des guillemets, bien sûr. Eh bien, leur réponse, c'est toujours ça. Sur la Terre, des espèces apparaissent régulièrement depuis des milliards d'années. Des espèces disparaissent également. Et quand on essaie de voir quelles sont les espèces qui subsistent, qui ont résisté aux extinctions précédentes, donc prendre des leçons d'eux, ce sont les espèces qui réussissent à vivre en harmonie avec la nature, qui s'intégrer dans un écosystème. Et nous, sur ce plan, nous sommes nuls. Nous sommes à peu près l'espèce la plus saccageuse qui existait sur cette planète. Ce rapport dont vous parlez le prouve une fois de plus. Maintenant, on le sait bien que c'est comme ça, mais c'est intéressant de voir que ça peut être mis d'une façon quantitative. On peut montrer effectivement qu'il y a les lions qui disparaissent, il y a ceci qui disparaît, pour alerter justement. Je crois que c'est très important aujourd'hui que les citoyens soient alertés que nous sommes dans une période de crise. Nous avons une crise avec le djihadisme, donc on fait des mesures d'urgence. Je crois que maintenant, il faut passer à l'état d'urgence quand on se rend compte de ce qui se passe, de cette diminution cas par cas des différentes espèces, on se dit, on a atteint une espèce d'urgence. De dire que c'est foutu, non, c'est jamais foutu. C'est foutu quand on dit que c'est foutu. Il y a toujours une possibilité, il faut toujours voir qu'il y a un avenir, que la réalité a plus d'imagination que nous, qu'il y a des moyens de s'en tirer, mais il faut les inventer, et c'est devenu une tâche majeure de l'humanité aujourd'hui. C'est de survivre, et de laisser survivre une très grande quantité d'espèces animales et végétales d'ailleurs.
Avant d'aller au standard, Gilles Boeuf, une question. Aujourd'hui, vous pensez effectivement que cette prise de conscience, elle n'est pas vraiment réelle au niveau des décideurs, au niveau des politiques, même au niveau peut-être du public ?
Disons qu'elle s'améliore. Depuis que, moi, ça fait maintenant 15 ans que je fais des conférences partout et puis j'écris des textes aussi, comme le fait Hubert. Donc, on se rend compte qu'il y a une prise de conscience qui augmente. Il y a une conscientisation, il y a une montée d'un sentiment écologique au sein des populations, en France et ailleurs. Je fais des conférences en Chine, c'est pareil, ou même dans des villes africaines aussi, ça vient. Au niveau du monde politique, en fait, la vision court-termiste et la différence de créneau de temps entre le temps biologique et puis le temps politique fait que c'est très, très difficile. Et quand je parle avec le monde, avec les hommes ou les femmes politiques, c'est toujours un peu la même question. Leur faire prendre conscience qu'on doit prendre des décisions aujourd'hui qui seront forcément impopulaires, qui seront difficiles, qui seront courageuses, mais qui seront extrêmement efficaces dans 10, 20 ou 30 ans. Et ça, on ne sait pas faire. Donc ça, on l'a vu avec le premier sommet de la Terre à Rio en 92. En 2012, 20 ans après, on a mis beaucoup d'espoir. On a oublié l'océan à Rio. On a oublié aussi la biodiversité, vous vous rendez compte. Donc aujourd'hui, il faut absolument que ce sentiment global qui existe, je pense, chez les gens, qu'on entretient, il faut le réanimer. Et surtout, il faut qu'on arrive à une vraie culture de l'impact. Chaque fois que je fais quelque chose, quel impact sera sur l'environnement et sur la nature? Et comment je réagis? Et là, le monde politique doit s'en emparer beaucoup plus massivement que ce qu'il fait à l'heure actuelle.
Laure, vous êtes au standard 01 45 24 7000. Bonsoir, vous nous appelez de Rethaus, on vous écoute.
Oui, bonsoir, merci. Bien écoutez, je vais faire un peu écho à ce qui vient d'être dit, parce que j'entends M. Rive et M. Leboeuf qui font beaucoup appel à notre intelligence pour prendre conscience de tout du monde dans lequel on est actuellement. J'ai l'impression que ça fait quand même un moment qu'on a conscience qu'on a des soucis, et pourtant on réagit autant qu'une colonie de bactéries dans une boîte de pétri quelque part. À savoir que les bactéries, quand elles sont dans un monde parfait comme la boîte de pétri, elles vont se développer de manière exponentielle. Et puis, elles vont faire des déchets, des déchets métaboliques. Elles vont en arriver à devoir manger ces déchets pour survivre. Et à la fin, elles essayent même parfois de s'entre-dévorer pour pouvoir survivre. Et elles finissent par toutes disparaître. J'ai bien peur que dans notre monde actuel, bien que cela fasse longtemps qu'on dise « ben plus jamais ça, attention », on en est quand même à manger nos déchets actuellement, si je ne me trompe pas. La terre est polluée, l'eau est polluée, l'air est pollué. On trouve, comme ça a été dit, des polluants dans les oiseaux arctiques, comme on en trouve dans notre corps. Malgré notre intelligence, malgré le fait que nous ayons connaissance de tout cela, eh bien, nous continuons comme des bactéries sur une boîte de pétri. Je pense que le problème de la tortue et le nôtre, il est différent. C'est que la tortue, peut-être que justement, elle fait confiance à son instinct. Et que nous, notre instinct nous demande le court-termisme, vivre maintenant. Pour être sûr de vivre, il faut vivre maintenant. C'est le court-termisme, c'est ce qui nous fait agir. On a des moyens que la tortue n'a pas, et ces moyens font qu'on détruit tout en ayant individuellement une intelligence du problème, mais collectivement une intelligence de bactéries.
Merci Laure, pas d'intelligence collective, Hubert Rive, c'est un petit peu ce que vous venez de dire.
Oui, d'une certaine façon, c'est ça qui est le problème. Nous sommes beaucoup d'humains, nous sommes beaucoup de pays différents. Et une bonne nouvelle sur ce plan, c'est ce qui s'est passé en novembre après la COP21, c'est-à-dire un événement historique. 194 ou 95, je me souviens pas, pays se mettent d'accord sur un plan. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel qu'ils s'établissent quelque chose comme une gouvernance. Aussi longtemps que les pays diffèrent d'opinion et n'atteignent pas un consensus, on va nulle part. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après la COP21, il y a eu cette rencontre où ces 195 pays ont reconnu qu'il y a un problème majeur. Ça, c'est unique dans l'histoire de la Terre, cette reconnaissance d'un problème majeur. Ce problème majeur, c'est le réchauffement climatique et la décision est prise de « il faut s'y adresser ». C'est un moment historique. Bien sûr, le travail reste à faire et ça sera long. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas un accord mondial, on va nulle part. Et je crois qu'en ce sens, il y a un progrès, ce phénomène de cet accord mondial. Bien sûr, il y a M. Trump qui nous cause des problèmes et ce ne sera pas simple. Et on n'a pas vraiment des bonnes techniques pour empêcher le réchauffement climatique. Mais les êtres humains sont intelligents, ils sont innovatifs, ils vont inventer, ils inventent des choses, mais il faut auparavant qu'ils aient décidé de le faire. Tant que la décision n'a pas été prise, eh bien ça, c'est nul.
Au Standard, on retrouve Patrice qui nous appelle de la Meuse. Bonsoir Patrice, on vous écoute.
Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à M. Rive, que j'admire beaucoup. Je voudrais aborder deux causes humaines qui, à mon avis, causent problème, celui des transports et de l'agriculture. On sait que la disparition des espèces est multifactorielle. Elle est due en grande partie au réchauffement climatique, lequel est gravement accéléré par la surconsommation de produits lointains. Moi, je pense qu'il est vital de taxer les transports intercontinentaux et de favoriser le commerce local pour enrayer le phénomène. Si vous favorisez le commerce local, par la même occasion, vous allez favoriser l'industrie et l'agriculture locale. Je trouve inadmissible, par exemple, qu'on arrive à avoir en France de l'agneau de Nouvelle-Zélande moins cher que l'agneau français. Ça, c'est proprement scandaleux. Par ailleurs, moi, je trouve que aussi il est stupéfiant de voir que les commentateurs économiques de tous les médias, quels qu'ils soient, radio, télévision, tiennent un discours favorable aux échanges internationaux. Ils n'ont qu'un seul mot à la bouche, vendre, vendre, encore vendre, tout en oubliant que chaque échange de longue distance est une catastrophe environnementale. Et je pense que ces analystes n'ont aucune réflexion systémique. On pourrait parler aussi de la multiplication des voyages, qui est une catastrophe. Je pense qu'on peut très bien se contenter d'un voyage tous les 3-4 ans, ce n'est quand même pas dramatique. On peut parler aussi de l'agriculture, de la disparition des haies. Je pense qu'il faut nommer aussi des responsables. Vous avez par exemple deux syndicats, vous avez la FNSEA et la Confédération Paysanne. Ben moi je suis désolé, quand j'entends la FNSEA qui représente les gros céréaliers et puis qui se contrefiche des conséquences de l'agriculture intensive, et ben moi ça me fout en boule. Voilà.
Merci Patrice. Gilles Boeuf, vous vouliez réagir ?
Bah oui, bien sûr. Ce monsieur a dit beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses qui sont sensées. Sur l'histoire des voyages, je vais prendre un exemple précis pour vous montrer à quel niveau on est rendu d'ineptie. Aujourd'hui, un œuf de saumon pondu en Norvège est emmené par avion au Chili. Au Chili, cet œuf se transforme en petit poisson d'eau douce qu'on va transférer en mer. Il est élevé en mer pendant 3 ans. On va le fileter sur place. Les filets reviennent pour être, toujours par avion, fumés en France. Ils seront mangés au Japon. Voilà. Ça, c'est absolument pas
mais
possible.
Gilles Boeuf, moi, je voulais vous poser une question toute simple. En quoi est-ce que ça a des conséquences, effectivement, sur l'extinction des espèces ?
Bah, tout simplement par les problèmes justement de la contribution au changement climatique. Tout à l'heure, par contre, je ne suis pas d'accord avec ce monsieur. Le changement climatique n'est pas du tout la première raison de l'extinction des espèces. C'est d'abord la destruction des écosystèmes, on l'a dit. C'est ensuite, bien sûr, la pollution, c'est la dissémination, la surexploitation. Le climat, il vient ensuite. Par exemple, je ne connais pas d'espèce qui a disparu de France aujourd'hui à cause du changement climatique. Ça pourrait venir à terme. Hein. Donc, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que c'est vrai que c'est systémique. Hein. Les transports sont effectivement un problème. Moi, je suis d'accord avec ce monsieur. Au niveau agricole, il faut booster l'agriculture locale. Je rappelle que le monde agricole a un rôle extrêmement important à jouer. Manger des produits locaux. Acheter en ce moment, je vois des poires d'Afrique du Sud sur le marché français. Il y avait des cerises du Chili au mois de février. Ça n'a pas de sens. Hein. Franchement, tout petit, j'en ai pas mangé. Et vous voyez, je suis pas si stupide que ça. Donc, on peut s'en passer.
Hubert, vous voulez y réagir ?
Oui, je voulais dire que, par exemple, aujourd'hui, un élément qui paraît clair, c'est il faut laisser le pétrole et le charbon dans la terre. Maintenant, on a des données qui montrent que si on extrait tout le pétrole et le charbon, ce que beaucoup de compagnies essaient de faire le plus vite possible, on augmente la température de 5-6 degrés, ce qui devient totalement ingérable. On sait ça maintenant. C'était la contribution importante du pape qui a mis en évidence, qui a mis le doigt sur l'aspect moral. Est-il moral aujourd'hui de continuer à extraire du pétrole, sachant pertinemment que ça va représenter des millions de morts? Est-il moral de le faire? Et beaucoup de compagnies, beaucoup de financières et des universités aux États-Unis ont réagi à cela parce qu'il s'appelle le désinvestissement. Les grandes universités américaines ont décidé qu'ils avaient déjà investi des fonds de pension ou de retraite dans des compagnies de pétrole, les retirent pour essayer de les mettre dans d'autres choses. Parce qu'il y a des choses qui deviennent claires, il faut laisser le pétrole dans le sol. C'est simple, mais c'est comme ça.
Gilbert, au standard, vous appelez de Blois, vous voulez évoquer la mutualisation des ressources.
Hein. Oui, je voudrais déjà dire que, bonjour tout d'abord, je voudrais dire que je souscris entièrement à ce qu'ont dit les intervenants extérieurs juste avant moi. Les déplacements de marchandises, etc., c'est ahurissant. Qui gagne là-dedans? Personne. Uniquement ceux qui font commerce et qui jouent sur la valeur des hommes qui ne serait pas la même en France ou autre. Pour quelle raison on exploite des Indiens parce qu'ils sont mal payés? C'est pas normal. On est humain, la terre appartient aux hommes, pas aux commerçants. Et chacun doit produire dans son environnement ce qu'il faut pour avoir un niveau de vie correct. Et ça passe d'abord aussi par l'éducation. L'éducation libérale, elle est finie. Il faut absolument qu'on arrive à faire prendre conscience que notre terre, le système et son fonctionnement doit être mutualisé. C'est-à-dire que on ne transporte que ce qui n'est pas cultivable, par exemple en France, on se paye un ananas de temps en temps, mais le reste, les pommes de terre, les poires, elles viennent chez nous. Il faut absolument qu'on arrive à comprendre qu'on ne peut avoir un fonctionnement global qu'en ramenant les sites de production aux endroits où il y en a besoin et qu'on ne joue plus sur la misère des gens dans un pays au Chili parce qu'il coûte moins cher de faire élever des animaux ou de décortiquer les crevettes. Hein. On va faire décortiquer les crevettes dans les pays où la main-d'œuvre est pas chère et on les ramène chez nous. C'est aberrant.
Merci Gilbert. Réapprendre, Gilbert Boeuf, réapprendre effectivement à consommer local, à produire local, ça aussi c'est la solution.
Tout à fait. Et ça passe par l'éducation. À nos auditeurs l'a dit tout à l'heure, il faut réapprendre aux enfants la saisonnalité. Hein, tout petit, vous vous souvenez, on mangeait des oranges à une époque de l'année, et puis les cerises c'était une autre. Ça rythmait l'année. C'est extrêmement agréable, d'ailleurs, dans des pays qui sont tempérés comme les nôtres. Hein. Ça, il faut le retrouver. Et ça repassera par l'éducation, effectivement. Produire local, des produits sains, dans des conditions, effectivement, qui mettent en valeur et qui rémunèrent correctement les gens qui les produisent, sans des transports lointains, comme on l'évoquait. L'autre jour, je voyais une annonce, par exemple, allez passer votre week-end en Chine avec vos petit ami pour 3 jours. Ça, je suis désolé, c'est un crime contre l'humanité, ça. Hein, la copine, elle sera aussi heureuse dans le Périgord qu'en Chine, et elle sera contente qu'on puisse aller en Chine pour des temps plus longs, bien sûr, évidemment. Je ne suis pas contre les voyages internationaux. Et ce que disait Hubert tout à l'heure est très juste aussi. Ne pas accepter qu'on détruise sans vergogne de la forêt primaire 23 millions d'hectares à Bornéo, dans la partie indonésienne, entre 2009 et 2013, pour faire du palmier à huile. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Quels produits utilise-t-on? Je disais, une culture de l'impact et surtout une culture de bien regarder ce que l'on consomme. Et là, chaque consommateur peut intervenir.
Merci Gilbert Boeuf, Sophie Bécherel, vous voulez parler.
Je voulais rebondir sur la Chine que vous évoquiez. Dans les politiques de conservation, la Chine fait beaucoup pour le panda, puisqu'on revient à cette extinction massive des mammifères. Quel est l'intérêt de prendre une espèce emblématique comme ça et de mettre énormément de moyens pour la sauver de l'extinction?
Oui, c'est discutable, disons. Ça reste le problème de la préservation des espèces, il est beaucoup plus général que seulement les éléphants ou les baleines ou les pandas. Ils s'adressent surtout, par exemple, aux vers de terre, aux chenilles, aux abeilles, aux papillons, c'est-à-dire des choses qui ont un impact sur tout le cours de l'histoire. De détruire les vers de terre comme on le fait, ça rend les sols stériles. Et on est en train de stériliser des quantités de sols un peu partout parce qu'on y met des pesticides. La même chose pour ceux qui pollinisent. mise. On voit disparaître les papillons. Moi, je me souviens, il y a 30 ans, j'avais plein de papillons dans mon jardin. Ce matin, je regardais, mais il y en a très peu. On voit sous nos yeux des choses qui se passent aujourd'hui. Donc, c'est vrai que...
Est-ce qu'on ne s'est pas trompé de cible en prenant justement des animaux emblématiques plutôt que ces animaux utiles dont vous parlez?
Je ne dirais pas qu'on s'est trompé, je dirais qu'il faut faire les deux et mettre surtout l'accent sur les autres. C'est intéressant de mettre les animaux emblématiques parce que c'est ce qui va toucher les gens. Si vous parlez des vers de terre, la plupart des gens
ils vont dire... Vous même parler des lions, des guépards, des pandas...
Mais c'est ça... Oui, donc on met l'accent... éducatif sur cet aspect, cette diminution de ces animaux emblématiques. Je crois que c'est pas une mauvaise idée, mais il faut aussi le mettre sur tous les animaux et en particulier sur ceux qui touchent à nos conditions de vie, qui touchent à nos capacités de manger, à nos capacités d'avoir des fruits et des légumes. C'est ça, il faut être réaliste. L'environnement, c'est pas un grand problème, c'est un million de petits problèmes. On touche à des choses concrètes. Ici, là, là, on avait ceci, on ne l'a plus, on le voit chez nous. Par exemple, quelqu'un faisait remarquer quelque chose d'intéressant. Vous vous souvenez du temps où quand vous alliez en voiture, qu'après un long voyage, vous aviez votre pare-brise qui était plein d'insectes. Ben, vous avez vécu ça récemment? Évidemment, c'est disparu. Ben là, on touche du doigt la destruction des insectes. On la voit du doigt. Les pandas, c'est lointain, mais les insectes sur le pare-brise, c'est direct.
Stéphane Leneuf, le téléphone sonne sur France Inter.
Au standard, Daniel, vous nous appelez du Cher. Vous vouliez insister sur le rôle des citoyens pour lutter contre cette sixième extinction. Hein.
Évidemment, je suis entièrement d'accord avec... bonsoir d'abord. Bonsoir. Entièrement d'accord avec les intervenants, surtout Hubert Reeves, que j'aime beaucoup. Je lis souvent ses livres. Mais alors, je suis en total désaccord lorsque ces intervenants et les journalistes fréquemment incriminent les élus. En fait, les élus, ils sont désignés par les citoyens. Je suis engagé en politique. Le discours que tiennent vos intervenants, je le tiens auprès de mes futurs électeurs, mais je n'ai que 3% des voix au moment de désigner auprès des candidats au moment de désigner les futurs élus. Alors, les citoyens sont à la fois électeurs et à la fois consommateurs. Ils font des choix de vie, des choix de consommation. Qu'est-ce que peut faire un politique devant, par exemple, un citoyen qui décide de divorcer? Le couple divorce et chaque couple va avoir sa maison ou son logement. Chaque couple va avoir sa voiture, etc. Il va multiplier à peu près son empreinte écologique par deux. Donc, si vous voulez, pour résumer, la balle est dans le camp des citoyens. Voilà, merci.
Merci Daniel. Gilbert, vous vouliez réagir sur ce pouvoir des citoyens, effectivement, pour changer les choses?
Oui. D'abord, je n'incrimine pas les élus. Je dis simplement que leur situation est difficile entre ce temps de la réaction du vivant ou du monde physique de la Terre et puis le temps des élections. Je disais à un homme politique célèbre récemment, il me disait « Mais tout ce dont on discute ce soir, vous croyez qu'une démocratie peut résoudre cela ?» Je dis « Oui, si vous n'êtes pas rééligible. » Parce que les mesures à prendre ne sont pas simples, je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je travaille beaucoup avec l'ANEL. L'ANEL, c'est l'association des maires élus du littoral. Et ben croyez-moi que je les accompagne depuis quelques années, ils sont super conscients des questions qu'on évoque ici. La remontée du niveau de la mer, c'est pas un gag, c'est pas une histoire d'écolo farfelu. Quand on voit un maire de France qui, sur une seule tempête, perd 30 mètres ou 40 mètres de trait de côte, on est super, super concerné, bien entendu. Donc ce qu'il faut dire simplement, c'est que le monde politique doit être capable maintenant de maturer et d'être capable de prendre des décisions qu'ils savent bien qu'elles seront effectivement efficaces dans 10, 20 ou 30 ans. Ça, c'est difficile. Parce qu'il faut penser à nos enfants et nos petits-enfants. Regarde, c'est Groucho Marx qui disait en fait « Pourquoi j'irais faire quelque chose pour mes descendants? Ils n'ont jamais rien fait pour moi. » Ben, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Donc le monde politique doit être là pour accompagner le système, c'est très important. Et pour moi, l'écologie n'est pas du tout un parti politique. Ni de droite ni de gauche, c'est du bon sens de réharmonisation entre l'humain et la planète.
Gilles Boeuf, quelles sont aujourd'hui les régions, les continents les plus touchés par cette extinction? Est-ce que tout le monde est touché ou est-ce qu'il y a encore des régions qui sont préservées, des continents, des terres qui sont préservées?
Non, tout le monde est touché parce que je vous disais tout à l'heure qu'on pollue des zones où on n'est pas. l'Antarctique et l'Arctique sont contaminés par l'ensemble des pays de la planète. Alors, les trois endroits qui sont les plus riches en nombre d'espèces sont les trois grandes forêts tropicales pluviales, le bassin du Congo en Afrique, l'Amazonie en Amérique du Sud, et les deux grandes îles en Asie que sont Bornéo et la Papouasie-Nouvelle-Guinée de l'autre. Bon, et ces territoires sont très touchés par la déforestation, par le changement climatique, aussi bien sûr par des pollutions qui sont amenées aussi par différents systèmes. Donc, on est touché partout. On est touché dans l'océan, vous savez. On a fait une expédition, le muséum, il y a 3 ans, à Madang, en Papouasie. On pensait vraiment avoir des paysages pristines où jamais personne n'était intervenu sur les fonds marins. Entre 200 et 400 mètres, c'était jonché de déchets. On a trouvé récemment sur des fonds à 8 km de profondeur des morceaux de plastique. Je me rappelle, moi, ma douleur un jour, dans une plongée profonde, par un seau jaune de plastique par 5000 mètres de profondeur. L'homme contamine absolument partout. Donc, il n'y a pas de zone vraiment protégée, à part les réserves, hein, les grandes réserves qui ont été mises en place. Et c'est intéressant ici de réfléchir avec les modes de vie locaux. Je pense souvent à l'Afrique, que j'aime beaucoup. Eh bien, en Afrique, les réserves décédées par les Européens lors des colonisations, finalement, sont en moins bon état aujourd'hui que les zones sacrées africaines, où jamais un braconnier n'ira pratiquer une activité. Et puis après, bien sûr, je retrouve Hubert Reeve quand il disait la cupidité, hein, tout à l'heure. Les rhinocéros sont vraiment sous nos yeux en train de disparaître, encore des espèces emblématiques. J'étais en Zambie il y a quelque temps. Il y a 20 ans, 2000 rhinocéros en Zambie. Zéro aujourd'hui. Parce que la corne du rhinocéros est le produit le plus cher sur le marché, plus cher que le platine, que l'or, que la cocaïne, pour des raisons stupides. Donc c'est là absolument qu'il faut tuer ces marchés qui sont très délétères.
Hubert Reeves.
Oui, je crois qu'il y a une question. Oui, moi j'aimerais aborder un sujet qui est, je pense, c'est le sujet de la décroissance. Je crois que c'est une fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée de dire on va arrêter la croissance et on va décroître. Il faut d'abord se demander croissance de quoi? Décroissance de quoi? Croissance importante, c'est la croissance de la qualité de vie, décroissance des moyens pour l'obtenir. Et cette idée de continuer à décroître, c'est négatif parce que ça ne met pas en valeur l'importance du fait qu'il y a 1 milliard de personnes sur cette planète qui vivent en état de pauvreté et qu'il faut essayer de les aider. Si on admet une décroissance, on les laisse à eux-mêmes. Donc je crois d'une part parce que la décroissance, c'est pas dynamique, c'est pas quelque chose qui est positif, c'est croissance de ce qui est important, c'est-à-dire améliorer la qualité de la vie et en décroissance des moyens pour l'obtenir. Ça, c'est possible. On aura certainement une vie plus austère. On sait très bien que les sources d'énergie qu'on a aujourd'hui, plusieurs personnes ont parlé des voyages en Amérique. Aujourd'hui, on va en Amérique ou ailleurs pour un oui ou pour un non. Ça ne va pas durer, forcément, puisque les moyens, l'énergie nécessaire est en train de diminuer. Mais c'est important de garder dans l'idée qu'il y a une partie de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté et que c'est notre responsabilité de continuer par des innovations, par des inventions, à leur permettre de s'améliorer.
Paul, vous nous appelez de Besançon avec une grosse inquiétude dans votre question, Paul. Ça concerne la menace de l'humanité, de sa vie, de la vie terrestre, tout simplement.
Oui, allô ?
Oui, on vous écoute, Paul.
Oui, alors en fait, bonjour à tous. Moi, quand je vois la situation et quand je vois les trésors technologiques que déploie l'humanité pour détruire son environnement, quand on voit les moyens qu'on se donne avec tout ce qui peut être pesticides, ce qui peut être armes nucléaires ou nucléaires civiles avec les accidents que ça suppose, je me demande presque plus si l'humanité ne va pas disparaître. À mon avis, l'humanité va en tout cas, telle qu'on la connaît, régresser un grand coup. Et n'en déplaise à Hubert Reeves, il va forcément y avoir un grand coup de décroissance, même si, comme il dit, voilà, on sera plus austère. Toutefois, la question que je me pose, moi, c'est est-ce qu'avec tout ce qu'on a sous la main comme outil pour détruire notre écosystème, on ne serait pas fichu, l'humanité, de venir à bout de simplement de la vie sur Terre et que notre planète, on soit capable de la rendre stérile à l'image de la planète Mars, par exemple? Est-ce que ce risque existe, à votre avis? Je vous remercie.
Merci. Hubert Reeves vous répond,
oui,
et après
j'ai justement vu une étude qui a été faite récemment par des gens qui ont considéré cette hypothèse. Est-ce qu'il nous serait possible de détruire la vie sur la Terre par notre comportement? La réponse, c'est non. Il existe des petits animaux, tenez-vous bien, ça s'appelle des tardigrades. Vous en avez dans les ongles, nous en avons partout, ils sont pas visibles à l'œil nu, eh bien, ils supportent des températures de 150 degrés, on les retrouve Pesquet en a retrouvé sur sa navette spatiale qui avait vécu dans le vide pendant très longtemps. On sait que la vie est extrêmement robuste. La vie va nous résister. Nous n'arriverons pas à l'éliminer. N'essayons pas, quoi.
Gilles Boeuf, sur la menace de l'extinction de la vie de l'espèce humaine.
Non, pas du tout, c'est absolument impossible, parce que la première vie, bien avant les tardigrades, ce sont les bactéries. Nous sommes, depuis les origines de la vie, une planète bactéries. Nous en sommes remplis. Je rappelle qu'un corps humain, c'est au moins autant de bactéries sur lui et dans lui que de cellules humaines. Un corps humain, c'est une ode aux bactéries, nos intestins, notre peau. Alors bien sûr, les espèces dont on parle, emblématiques, les pandas, les hippopotames, les rhinocéros, sont menacées. Mais la vie sera largement là une fois que l'humain aura disparu. Elle est chevillée à la planète Terre. On a fait récemment des forages profonds sous 3 km d'océan au sud de Groenland, dans les basaltes, où il y a des bactéries à 1500 mètres dans les roches. La vie est partout sur la Terre, sauf dans les laves de volcans. Donc cette vie, elle continuera tant que la Terre sera habitable par des bactéries. Il y en a absolument partout. Par contre, ce qui aujourd'hui nous pose problème, bien sûr, c'est l'harmonie de l'humain avec cette nature qui nous entoure. Parce que nous ne sommes pas dans un système où on veut plus d'humains sur la Terre. Il faut des humains qui soient conscients du merveilleux miracle de ce qu'est la vie sur la Terre, la vie dont l'humain est issu, dont il tire ses ressources, dont il tire ses partenariats. Vous ne mangez que de la vie, vous ne coopérez qu'avec de la vie. C'est ça qu'il nous faut aujourd'hui réharmoniser. Donc moi, j'aime pas du tout le terme de décroissance non plus, parce que c'est pas un but pour moi. De la sobriété, oui, ça c'est sûr.
Gilles Boeuf, cette remarque de Thorsen sur Internet, comment justement reconstruire le lien entre l'homme et la nature, parce que ça peut être simplement la solution pour nous protéger, Hubert Rive et Gilles Boeuf.
Ben, en pratique, en théorie, d'accord. En pratique, c'est comment faire. Quels sont les moyens? C'est là qu'on en est. C'est là que ça demande de l'innovation. Il y a déjà beaucoup de gens qui s'y mettent. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font un peu partout. Donc, il y a un avenir possible, mais ça va poser plein de problèmes.
Gilles Boeuf?
Oui, en fait, j'aime beaucoup Patrick Vivray quand il dit il faut reprendre l'amour partout, l'amour de ce qui est autour de nous, l'amour du prochain, les humains entre eux déjà, hommes et femmes, c'est pas simple, hein. Regardez la situation des femmes aujourd'hui, il y a du travail, hein. Les relations entre le monde animal. Quand on voit que l'humain consomme la moitié de l'eau disponible pour toutes les espèces connues aujourd'hui, ou pas connues, ça, cet égoïsme-là, il ne peut pas continuer. Donc ça veut dire qu'il faut que chacun se réintrospective, sans se culpabiliser, en disant simplement « je ne pourrais pas vivre comme mes parents ». Hein, moi, j'ai des petites filles, on discute, on échange, bien sûr, elles me racontent des choses intéressantes, elles sont conscientes de ce monde en train de changer. On ne vivra pas comme nos parents ni nos grands-parents, mais on ne sera pas pour ça malheureux. Et arrêter le but unique actuel qui est gagner de l'argent, faire du profit, pour trouver beaucoup plus de bonheur, finalement, et de respect de l'harmonie mieux partagée. Aujourd'hui, tout à l'heure, Hubert parlait des gens, effectivement, qui sont pauvres. Le développement durable, et là, je vais être un peu solennel, ne pourra jamais exister si on n'éradique pas la pauvreté. Ça, c'est fondamental. Et je terminerai en disant que tous ces conflits actuels qui sont déclenchés font le lit de ces questions qu'on évoque ici. Le changement climatique, la déforestation en Afrique ou en Asie font le lit des mouvements terroristes. Tout ceci est lié, bien sûr, parce que ça affecte directement les économies et les migrations des humains.
Sophie Bécherel.
La dernière extinction de masse, celle des dinosaures, a permis l'apparition des mammifères. Est-ce que la sixième extinction, celle qu'on est en train de vivre en ce moment, pourrait déboucher sur un scénario identique? Voilà, un groupe qui...
Oui, ce serait sympathique. Je ne sais pas, j'en sais rien.
Est-ce que les biologistes peuvent répondre à ça?
Non, je ne pense pas. C'est des questions beaucoup trop difficiles, même pour les biologistes, même pour les astrophysiciens. Non, ça c'est hors de notre portée, certainement.
Alors, Gilles Boeuf.
On peut l'espérer, on peut le souhaiter.
Attendez. Gilles Boeuf, on vous écoute.
Certes, mais des petits mammifères.
Gilles Boeuf,
Tout petit. Je demande souvent à mes amis paléontologues au muséum, mais quelle était la taille d'un mammifère au moment des grands dinosaures? C'était un lapin, en gros, hein. Oh, un lapin. Il se cachait dans des terriers parce que les gros trucs, ils les voyaient pas, de toute façon. Donc, les mammifères sont très anciens. Ils sont là avant les oiseaux qui ont donné les dinosaures. Alors, ce qui est clair, c'est que l'extinction des dinosaures n'a pas fait apparaître les mammifères.
Non, elle a permis
leur explosion. Vous avez raison. Et ceux de très grande taille. Bah, écoutez, demain, l'évolution continuera comme ça. Vous savez, un événement qui s'est produit ne se reproduit jamais deux fois. Tout est un phénomène de ce qu'on appelle, nous, en biologie et en évolution, les contingences. Un événement qui se produit et qui va bouleverser le futur aurait très bien pu ne pas se produire. Donc je fais comme Hubert en disant je ne sais pas ce qui va se passer. Simplement, c'est que le vivant réagira en fonction des caractères adaptatifs des espèces qui vivront un événement à un moment précis. L'humain, s'il continue à faire les bêtises comme il fait aujourd'hui, il va se créer un mode de vie extrêmement compliqué.
Gilles Boeuf, comment est-ce qu'on en a parlé pendant cette émission, mais concrètement, vous restez optimiste ou vous êtes fondamentalement pessimiste sur pour les années à venir, pour les dizaines d'années à venir ?
Alors, je suis un garçon depuis tout petit optimiste. Si vous écoutez mes conférences, vous écoutez mes cours au Collège de France,
ça s'entend dans votre ton, sur YouTube,
je reste optimiste. Mais je dis des choses qui sont graves. Je pense qu'une des meilleures armes, c'est l'humour. J'essaye, en fait, de faire que mon interlocuteur rapidement s'auto-ridiculise de par les comportements qu'il a, en disant, ah, franchement, je suis vraiment stupide de faire comme ça. Et je pense que ça passe assez bien quand les gens veulent bien réfléchir. Alors évidemment, il nous reste toute la question de ces millions de gens, milliards, qui demain se demandent ce qu'ils vont donner à manger à leurs enfants et qui sont dans l'immédiateté qu'on évoquait tout à l'heure. Hein. Mais globalement, les gens qui peuvent avoir une action sur le changement qu'on évoque ici pour une gouvernance mondiale doivent s'imprimer de ceci. Donc, je reste d'un optimisme mesuré. La situation est grave. Je suis professeur des universités. Je suis pas là pour désespérer mes étudiants. Tout, j'ai 3/4 de filles. En plus, j'ai pas envie de les désespérer, hein. Je suis là pour leur dire, vous allez vivre différemment. Battez-vous, les filles et puis les garçons. Trouvez votre place. Et surtout, laissez, comme disait Lévi-Strauss, cette dame qui l'évoquait tout à l'heure, Lévi-Strauss a écrit des choses merveilleuses en 2007 avant de disparaître, où il disait que l'humain ne laisse pas, sa limite à lui, c'est le démarrage de la place des autres, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui.
Hubert Reeves, quelle est la fenêtre de tir, on peut dire, pour inverser la tendance? Est-ce que c'est vraiment d'urgence ou est-ce qu'on a encore quand même du temps?
C'est d'urgence, c'est en train de se faire. La situation aujourd'hui, elle est double. La détérioration se poursuit rapidement, mais la restauration et le réveil vert se poursuivent également. Donc on n'est pas dans une situation, on est dans une situation double où nous avons deux forces majeures, deux forces titanesques qui s'opposent. Qu'est-ce que ça va donner? Personne ne le sait. Que sera cette planète dans 30 ans? 30 ans, c'est pas loin. Que sera cette planète dans 30 ans? Personne ne le sait. Ce sera peut-être beaucoup mieux, ce sera peut-être bien pire. Il faut faire comme si c'était beaucoup mieux.
Ce sera le mot de la fin, il faut faire comme si c'était beaucoup mieux.
Oui, il faut être volontaristement accroché à faire ce qu'on peut pour que ça se passe mieux, même si on sait que ça se passera peut-être pas mieux.
Et rester optimiste, comme nous vient de nous le faire savoir Gilles Boeuf.
Oui, tout à fait d'accord avec Gilles sur ce plan. Nous avons la même attitude qui consiste à dire il faut être volontaire, volontariste, que
volontaire et optimiste. Merci à tous.